On est dans le cours « Connaître Dieu ». Ah, déjà, c'est un bon effet, merci. On est dans le cours « Connaître Dieu », leçon 7, et on va parler ensemble de la sagesse de Dieu. On couvre les chapitres 9 et 10 dans le livre « Connaître Dieu » ou « Knowing God » de G.I. Packer. D'accord? Alors, on va aller ensemble dans un mot de prière. Bien, Père éternel, on veut te rendre grâce, Seigneur, pour cette dernière neige probablement qui nous est venue cette semaine. Elle était superbe, Seigneur. On a hâte de voir le beau temps arriver. On a hâte de voir la chaleur. Le printemps semble s'annoncer pour ce vendredi vraiment. Mais Seigneur, je veux te remercier pour cette dernière neige, ces beaux flocons qu'on a vus hier matin tomber et couvrir, Seigneur, toute la nature, toute la ville, nous rappeler ta grâce, nous rappeler, Seigneur, le pardon qu'on trouve en toi. Ça me fait toujours du bien, Seigneur, de voir combien la neige vient couvrir parfois tant de laideur et combien, Seigneur, ta grâce vient couvrir la laideur de mon cœur si souvent, Seigneur. On te demande de venir nous bénir ce matin dans ce temps, dans ta parole. Viens, Seigneur, nous instruire. On a besoin pas non seulement de comprendre ces choses intellectuellement, mais nous avons besoin de devenir sages, Seigneur. Sage de cette sagesse qui dépasse une connaissance intellectuelle, mais qui dicte, qui instruit les attitudes, les comportements, les choix, les émotions, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Il y avait au moins une personne qui était d'accord avec ma prière. J'apprécie ça. Merci. Merci, Jay. Donc, on est dans la leçon 7, connaître Dieu. Comme j'ai mentionné, il n'y aura pas d'amplification dans la salle. On essaie de être un petit peu plus intime ensemble pour avoir un petit peu plus le feeling qu'on est dans une classe. Ce matin, on parle de la sagesse de Dieu, de notre sagesse et de la sagesse que Dieu veut nous communiquer. Est-ce qu'il y a quelqu'un, sans regarder les notes, qui voudrait s'essayer à nous résumer qu'est-ce que c'est selon vous la sagesse selon Dieu, la sagesse selon la parole de Dieu, la sagesse de Dieu? De qu'est-ce qu'on parle lorsqu'on parle de sagesse de Dieu? La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, c'est vrai. OK. Une attitude et un comportement qui n'a aucune ambiguïté. Là, quand tu dis ça, est-ce que tu penses à Dieu ou tu penses à nous? OK. Ambiguïté, ça veut dire qu'il n'est pas clair. Un comportement qui serait peut-être pas clair dans son message. Quelqu'un d'autre? Comment vous résumeriez la sagesse, disons, précisons la sagesse de Dieu. Comment vous résumeriez la sagesse de Dieu? Tu veux-tu me répéter juste le début de ta phrase? OK, comment est-ce qu'on met en pratique les choses qu'on a, les connaissances qu'on acquiert, qui pourraient rester théoriques? C'est bon, vous allez rapidement vers la sagesse que Dieu veut induire en nous, d'accord? Mais en même temps, dans toutes vos réponses, il y a un élément super important, c'est que dans notre conception à nous de l'intelligence, dans notre conception moderne de l'intelligence, dans notre conception générale dans la société de l'intelligence, on a tendance à dissocier, à faire une séparation, à faire une distinction entre l'éthique, le bien, le mal, les choix moraux qu'on fait et l'intelligence. Donc, quelqu'un, généralement, on va le dire, nous-mêmes, on va parler avec des gens, puis on va dire, ah, il est super intelligent, mais il est tellement méchant. Dans une vision biblique des choses, telle que Dieu nous révèle l'intelligence, ces deux choses-là ne vont pas ensemble. C'est impossible d'être vraiment intelligent puis d'être méchant. Parce que celui qui est méchant est stupide. Il n'est pas intelligent. D'accord? Et donc, lorsqu'on pense à la sagesse divine, lorsqu'on pense à la sagesse de Dieu, elle implique toujours une dimension éthique, une dimension morale, une dimension de choix entre le bien et le mal. Celui qui est intelligent selon Dieu, c'est celui qui discerne la bonne chose à faire, d'accord? Maintenant, c'est pertinent quand même de faire la distinction, parce qu'on va dire de quelqu'un, écoute, il est super fort en maths, ça ne fait pas de lui quelqu'un de très, très brillant, d'accord? Fait qu'à un moment donné, même avec nos enfants, on veut enseigner ces choses-là aux enfants, d'accord? L'intelligence véritablement, c'est pas simplement d'être capable de faire une équation, de résoudre une équation mathématique hyper complexe. C'est aussi d'être capable de discerner la bonne chose à faire en toutes circonstances. Et ça, c'est une différence fondamentale avec notre compréhension de l'intelligence. Dans le livre des Proverbes, dans l'Ancien Testament, en général, on ne trouve pas de distinction entre l'intelligence puis la sagesse. C'est pas mal utilisé comme deux synonymes, d'accord? Est intelligent celui qui est sage. Ça va? En premier paragraphe à la page 1 de nos notes, dans l'Écriture, la sagesse apparaît comme une qualité tant morale qu'intellectuelle, une qualité qui est plus que l'intelligence ou de la connaissance pure, plus aussi que de la sagacité ou de la finesse. C'est pas juste d'être perspicace, d'être capable de réfléchir rapidement. Pour que l'homme soit véritablement sage au sens biblique du terme, il faut que son intelligence et sa perspicacité, si vous voulez changer le mot de sagacité, soient mises au service du bien. Et donc, on va l'admettre nous-mêmes dans notre langage. On va parler d'un savant fou. Hein? Par le fait même, on est en train de dire, il a beau être savant, il est fou. Il est intelligent ou non? Bon, il est savant. Il n'est peut-être pas intelligent, il est fou. D'accord? Et donc, on est en train de dire qu'il y a une dimension morale. Il y a une dimension morale aussi à la sagesse, à l'intelligence. D'accord? La sagesse est la faculté de discerner et le désir de donner le meilleur et le plus noble des objectifs ainsi que les moyens les plus sûrs pour l'atteindre. Je répète ça. Vous avez une super bonne définition de la sagesse ici. D'accord? La sagesse est la faculté de discerner. Jusque-là, on va avoir tendance à dire, OK, ça va. Mais le désir de donner le meilleur et le plus noble des objectifs ainsi que les moyens les plus sûrs pour l'atteindre. Ça veut dire non seulement j'arrive devant une difficulté morale, devant une difficulté au travail, devant un choix de vie à faire qui n'a peut-être pas a priori un aspect moral. Et puis, si je suis sage, je suis capable de discerner c'est quoi qui est à propos de faire. Ce n'est pas juste bien mal. C'est quoi vraiment la bonne chose à faire dans cette circonstance-là? Et non seulement je le discerne, si je suis sage, je le désire. C'est là que ça se complique pour nous, n'est-ce pas? C'est un petit peu à ça que Paul faisait allusion tantôt lorsqu'il disait de vouloir mettre en application des choses qu'on a apprises. Alors, l'homme, la femme qui est sage, non seulement va discerner la bonne chose à faire, mais elle va désirer prendre le meilleur moyen pour obtenir le meilleur objectif, l'objectif le plus noble, le plus sage, ainsi que les moyens les plus sûrs pour l'atteindre. D'accord? Et donc, c'est ça qu'on veut chercher, puis c'est ça qu'on veut enseigner à nos enfants. Nos enfants sont à l'école, puis à l'école, on leur apprend les questions morales ne relèvent pas de l'intelligence. En gros, c'est quand même ça le message qui est donné. Les questions morales relèvent très peu de l'intelligence. Les questions morales relèvent plutôt de l'air du temps. D'accord? Après ça, ils ont des difficultés, hein, puisque la société va dire, mais dans le temps, ça, c'était pas bon, c'était mal de faire ça. Aujourd'hui, c'est correct de faire ça. Puis après ça, ils essaient d'expliquer à un jeune, mais c'est peut-être pas correct, par exemple, que tu te gèles la bine jusqu'à en perdre toutes tes facultés intellectuelles. Mais c'est bien ou c'est mal? Parce que tu m'as dit que c'est pas une question d'intelligence, le bien ou le mal. D'accord? Donc, en général, le message global qui est donné lorsque les enfants sont à l'école, c'est il y a la morale qui relève de questions personnelles, c'est des choix individuels, c'est ce que tu veux faire. Peut-être aussi de société, on va définir ensemble ce qui est bien et ce qui est mal. Puis il y a des choses que tu peux comprendre avec ton intelligence. Ça, c'est des notions objectives. C'est des équations mathématiques, c'est des règles de français. Ça, c'est des dimensions objectives. Mais toute la question de l'éthique, de la morale, c'est pas objectif, ça. C'est un phénomène social qui est en évolution. Il y a 100 ans, c'était mal de se faire avorter. Aujourd'hui, c'est bien. C'est juste qu'on a évolué. Le problème qu'ils ont après ça, c'est qu'ils n'arrivent pas comme à donner de fondement. Tu n'as plus de base. J'ai donné l'illustration il y a quelques semaines, je pense, dans le cours ici, avec toute cette question du suicide qui monte beaucoup chez les jeunes garçons. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Et puis l'intervenant social, il disait, il faut leur dire que ce n'est pas une option. Il faut convaincre les jeunes hommes, les jeunes garçons, que ce n'est pas une option, le suicide. Mais sur quelle base ce n'est pas une option? Parce que moi, avec mon intelligence, j'ai essayé la vie. J'ai conclu qu'elle ne m'intéressait pas. Vous m'avez appris que je suis maître et que je possède ma vie. La preuve, c'est que tu possèdes même le fœtus qui est dans ton ventre. C'est ta vie. Il est déjà en train de. C'est déjà un corps étranger qui est en train de t'envahir. Fait que tu peux l'éliminer. Fait que moi, maintenant qui suis propriétaire de ma propre vie, pourquoi j'aurais pas le droit de me suicider? C'est vous qui êtes égoïste. Vous voulez que je reste en vie pour vous, dans le fond, parce que vous allez être malheureux. Hey, ça se tient, ça. Ça se tient. Si la morale n'est pas quelque chose d'objectif, d'accord? Mais non, si la morale est quelque chose d'objectif, on dit non, ça c'est mal. Pourquoi est-ce que c'est mal? Mais là, je vais retourner à Dieu parce que tu as été créé à l'image de Dieu. C'est Dieu qui t'a créé et tu es là pour refléter sa gloire. Et c'est là que tu vas trouver la sagesse, l'intelligence. C'est lorsque toute ta vie est éclairée par la sagesse divine. Et donc, pour nous, il y a une dimension objective, clairement, à l'éthique au bien ou au mal. Est-ce que ça va, ça? Est-ce que vous avez des questions, des commentaires sur ça? Est-ce que c'est clair ce que je dis ou vous avez l'impression que je suis philosophe un peu, là? Dans le paradis, c'est pas clair ce que je dis? Je suis comme là. Ça va? Pour de vrai, est-ce que ça va? Oui? OK, c'est une philosophie claire. Tant qu'il est biblique, on n'est pas pire. On n'est pas pire. Alors, évidemment, une des questions que je pose au milieu de la page 1, c'est dans quelle mesure est-ce que cette sagesse se retrouve parfaitement en Dieu seul? On est des êtres déchus, d'accord? Parce qu'on est des êtres déchus, cette sagesse-là, on ne l'a pas parfaitement. Et puis, on est des êtres finis, des êtres limités. Quand je parle d'être fini, c'est qu'on n'est pas infini, on est limité, d'accord? Et donc, notre connaissance aussi est limitée. Et donc, il y a seulement Dieu qui possède parfaitement et entièrement cette sagesse. Maintenant, une belle citation encore au bas de la page 1. « La sagesse sans la puissance serait pathétique. » N'est-ce pas? Si on imaginait Dieu infiniment sage, mais gros comme ça.
« Hey! Arrêtez de faire ça! »
Incapable de faire appliquer sa sagesse, ça serait totalement pathétique. D'accord? En fait, ça ressemblerait pas mal à un être humain, mais infiniment sage. Ça nous dépasse de beaucoup. Mais en même temps, la puissance sans la sagesse, ce serait tout simplement effrayant. On se retrouverait avec les dieux grecs, les dieux, les divinités grecques, d'accord, qui avaient la puissance, mais pas la sagesse. Et là, ça devient terrible, ça devient effrayant. Ça ressemble à un despote qui va justement faire selon ses pulsions, qui va dominer, qui va détruire. Mais en Dieu, une sagesse sans limite s'unit à une puissance infinie. Il est donc parfaitement digne de notre entière confiance. Non seulement on devrait le craindre parce qu'il est tout puissant, mais on devrait le craindre, puis on va parler tout à l'heure de la crainte de Dieu, on devrait le craindre aussi parce qu'il est infiniment sage. Lorsqu'il dit « ceci est bien » ou « ceci est mal », on devrait trembler à l'intérieur puis se dire « c'est drôle, j'avais pas vu ça de la même manière. Je dois vraiment être à côté de mes fautes. » Parce que c'est l'infiniment sage qui me dit que je suis à côté de la plaque. Puisque Dieu est infiniment sage, je suis au haut de la page 2, « toutes ses décisions, toutes ses actions sont remplies de sagesse. » Et cela qu'il s'agisse de sa création, de sa providence, de sa parole, de ses desseins, de ce qu'il permet dans nos vies personnelles. Lorsqu'on parle de la providence divine, pensez provision, c'est comment à travers sa souveraineté, il est souverain au contrôle même de chaque circonstance. Tout ce qui se passe dans l'histoire de l'univers est au moins permis par Dieu d'une manière quelconque, d'accord? Dieu n'est pas pour le mal, mais c'est au moins permis par lui. S'il ne voulait pas que cela se réalise, ça ne se réaliserait pas. Et donc, on va parler de la providence divine. Et donc, un chrétien s'en va à chaque jour, il se lève le matin et il sait qu'à travers toute la journée, il va pouvoir lire la providence divine dans les circonstances qui vont apparaître dans sa journée parce que Dieu est souverain. D'accord? Et parce que je sais que je suis en Jésus-Christ, je suis fils de Dieu, mais là, je peux dire comme Paul, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu m'aime, Dieu est souverain, sa providence est en ma faveur. D'accord? Donc, je vais juste relire ce paragraphe-là au haut de la page 2. Puisque Dieu est infiniment sage, toutes ses décisions, toutes ses actions sont remplies de sagesse, et cela qu'il s'agisse de sa création, de sa providence, de sa parole, de ses desseins, ou de ce qu'il permet dans nos vies personnelles. Il n'y a jamais rien que Dieu a fait qui était comme à 99% sage, mais là, il en a manqué un petit pourcent. Jamais. Puis Dieu est totalement souverain. C'est ce qui fait que B.B. Warfield disait, je l'ai cité il y a quelques semaines, un théologien, il disait, croire dans la souveraineté de Dieu, c'est la solution à tous les problèmes de l'humanité. C'est définitivement la solution à 99% des problèmes dans nos vies, dans nos cœurs, à notre inquiétude. D'accord? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, puis Dieu est infiniment sage. Il n'y en a jamais manqué une. Pas une fraction de seconde de distraction. D'accord? Tous les écrans sont devant ses yeux, il voit tout en même temps, puis il maîtrise tout parfaitement. Comme on a dit la semaine dernière, il les voyait toutes avant de créer le temps. D'accord? Et donc ça doit instruire notre foi, là. On est en train de parler de théorie, mais une théorie qui, boy, ça a une incidence pratique énorme. Ça a une incidence pratique énorme. Quand je suis devant des circonstances difficiles dans ma vie, absolument terrible. Cette semaine, on a plusieurs personnes dans l'Église qui ont vécu toutes sortes de situations. La semaine dernière, la petite Kellyanne avec Mathieu et Betty, je priais avec Betty cette semaine. On pleurait ensemble au téléphone. Dominique et puis Martine avec l'accident de voiture, si vous avez entendu parler de ça cette semaine, mercredi, je crois. Que dans nos cœurs, lorsqu'arrivent des circonstances difficiles, la question qui vient dans nos cœurs, c'est « Pourquoi, Seigneur? » C'est légitime. D'accord? C'est absolument légitime. Puis de dire, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? C'est dur d'accepter toute cette souffrance-là. Mais il y a une réponse. Une réponse qui devrait être de plus en plus présente dans notre esprit. Ça ne veut pas dire que ça enlève la souffrance du tout, du tout, du tout. Ça n'a pas enlevé beaucoup de souffrance à Jésus dans le jardin de Gethsémané de savoir que Dieu est sage puis que Dieu est bon. D'accord? Donc, ça ne veut pas dire que ça enlève toute la souffrance. Il y a une réponse qui devrait venir dans mon esprit. Parce que je suis bon. Parce que je suis sage. Demain matin, je fais le pas, on me rentre à l'hôpital, j'apprends que j'ai un cancer généralisé, il me reste 3 mois à vivre. Pourquoi, Seigneur? Il y a la souffrance, il y a la douleur, il y a le trouble, mon cœur peut être totalement bouleversé. Je ne suis pas en train de dire que je suis un automate, là, puis paf, je retombe sur mes deux pieds, là. Ça se peut que je sois emporté dans toutes sortes de questionnements. Mais dans mon esprit, progressivement, plus je grandis dans ma foi, plus je grandis en sagesse, il devrait venir la réponse de la part de Dieu dans mon esprit. Parce que je suis bon, parce que je suis sage, Yannick, ton cancer généralisé. Parce que je suis tout puissant. Oui, Gérard. Oui, c'est ça, on s'approche de Dieu là. Moi, je vous dirais, dans la souffrance, on ne comprend pas toujours Dieu. Puis j'ai vu personnellement des chrétiens traverser des périodes de souffrance où ils n'ont pas appris grand-chose à travers cette souffrance-là. Okay? J'ai vu des gens, des chrétiens mourir avec de l'angoisse encore dans les derniers milles avant leur mort, où tu te dis, mais il me semble qu'à un moment donné, tu laisses aller puis tu laisses entre les mains de Dieu. Puis non, c'était comme pas simple. Puis je priais avec eux, j'étais là pour eux, tout ça. Donc j'en ai vu. Mais j'ai vu, je ne sais pas combien de dizaines et dizaines de chrétiens qui, à travers la souffrance, c'est là qu'ils ont connu Dieu comme jamais avant. D'accord? Et ça, c'est la vérité aussi, là. C'est que Dieu se sert de la souffrance d'une manière insoupçonnée pour nous apprendre à le connaître comme jamais auparavant. Et pour la vaste majorité des souffrances que les chrétiens vont vivre, c'est ça qui se passe. Dieu nous rapproche de lui. D'accord? Et nous amène à le connaître davantage. Comment expliquer que nous ne le voyons pas toujours ainsi en ce qui a trait à ce qui arrive dans le monde et dans notre vie? Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à trouver ça? Bien, on est incrédule. On est incrédule, puis on n'aime pas souffrir, puis ça, c'est légitime. D'accord? Et donc, on ne va pas à cet endroit-là rapidement. Pour saisir et croire dans la sagesse de Dieu en toute chose, nous devons comprendre quel est son but. Okay? Le prochain paragraphe est super important. Dans sa sagesse, Dieu ne s'engage pas et ne s'est jamais engagé à assurer le bonheur à un monde déchu ou la quiétude à des impies. En fait, Dieu s'est engagé au contraire. Dieu s'est engagé fermement à tourmenter l'humanité afin qu'elle se tourne vers lui. Parce qu'à un moment donné, il va arrêter l'histoire, puis tout le monde va passer en jugement. Fait que tu ne veux pas qu'il les laisse tranquille. Comprenez? Puis certains d'entre vous, vous voyez vos proches, votre famille qui ne sont pas au Seigneur, puis qui souffrent, puis votre premier réflexe, je le sais, comme parent, peut-être que je vais passer par là comme parent, notre réflexe, c'est de dire, Seigneur, permet qu'ils ne souffrent plus. C'est rien, là, vous comprenez? C'est rien, là. C'est même pas le début d'un avertissement de ce qui t'attend lorsque tu vas te présenter devant Dieu. Fait que si cette souffrance-là dans la vie de mes proches peut les conduire à Dieu, malgré toute la compassion que j'ai pour eux, malgré le fait que je souffre de les voir souffrir, je veux pas nécessairement que ça parte. Pas nécessairement. Puis je vais pas me donner le raisonnement hyper cynique de me dire, écoute, s'il n'est pas pour donner sa vie à Jésus, il est aussi bien d'avoir une bonne vie ici parce qu'après, ça va être long pour l'éternité. Mais des fois, j'ai l'impression d'entendre ça un petit peu. Je ne sais pas si vous mesurez le cynisme, à quel point c'est pathétique comme raisonnement, mais des fois, j'ai l'impression d'entendre ça un petit peu. D'accord? Non, chaque instant, chaque seconde d'une vie passée sur terre est encore une seconde où je peux me tourner vers Dieu. Et si ça veut dire que les gens autour de moi, les gens que j'aime, les gens pour qui je prie, vont devoir souffrir pour se tourner vers Dieu. Je connais la puissance de la souffrance dans ma propre vie comme chrétien, à quel point ce sont des grâces de Dieu. Je ne vais pas nécessairement souhaiter que ça s'enlève dans leur vie. Et pour être bien franc avec vous, j'ai prié sur nombre de personnes. Puis plusieurs peut-être d'entre vous, si vous êtes éloignés du Seigneur, puis j'ai eu à intercéder en votre faveur pendant ce temps-là, peut-être vous n'auriez pas voulu entendre mes prières. D'accord? Mais j'étais très à l'aise de dire, Seigneur, amène-le dans autant de souffrances qu'il va falloir pour qu'il se tourne vers toi. Puis conduis-le là, parce que c'est clair qu'il n'a pas le sentiment d'avoir besoin de toi. Et j'ai aucune gêne à prier ça. Si vous éloignez du Seigneur, comptez sur moi pour prier comme ça pour vous. D'accord? Si je fais des imprécations sur les violeurs puis les pédophiles, je peux prier comme ça pour vous. D'accord? Vous chercherez le mot imprécation si vous voulez. Dieu désire conduire une multitude d'hommes et de femmes à entrer dans sa gloire, prenant plaisir en lui et lui en nous. En d'autres mots, et pour résumer de manière un peu rapide, il veut former Christ en nous. Donc, Dieu ne s'est pas engagé à nous mettre à l'abri puis à nous expliquer tout ce qui se passe dans nos vies, tout ça. Dieu s'est engagé à former Christ en nous. Il s'est engagé à sauver des millions et des millions d'êtres humains. Et Dieu va faire agir sa sagesse et sa puissance dans ce sens-là, avec ce que ça peut impliquer comme souffrance pour l'humanité, d'accord? Et souvent, sa sagesse, sa puissance se manifeste simplement en livrant les hommes à eux-mêmes. On va le voir avec Samson ce matin. Souvent, Dieu a juste à faire ça, hands off. Puis la souffrance se génère d'elle-même, d'accord? Souvent, il n'y a pas grand-chose à faire. On va le voir avec Samson. Dieu est derrière la bêtise de Samson. Je ne pense pas que Dieu est en train de dire « Vas-y, mon homme, pêche! » Je pense que tout ce que Dieu fait, c'est qu'il dit « Comme tu veux, mon homme, suis tes pulsions. » D'accord? Alors, je ne suis pas en train de dire que Dieu est un être machiavélique. Pas du tout. Je vais aller un peu brièvement, mais la réponse de Paul devant la souveraineté de Dieu, la souffrance dans sa vie, lorsque cette écharpe dans la chair, on ne sait pas exactement c'est quoi, est-ce que c'est ses yeux, il ne voyait pas, il y a toutes sortes d'hypothèses qui sont émises sur ça. La réponse de Dieu, c'est que Dieu se glorifie à travers la faiblesse. Et donc, Paul a appris à accepter la souveraineté de Dieu sur sa vie. Donc, deux pistes concrètes pour apprendre à vivre avec la sagesse et la souveraineté de Dieu dans nos vies, dans la vie des gens autour de nous, au milieu de la page 3, accepter qu'elle vienne de Dieu et nous demander ce que l'Évangile de Dieu attend de nous dans cette situation, qui survient des circonstances dans ma vie. Ça ne fait pas de sens à mon intelligence parce que je ne m'appelle pas Dieu, je n'arrive pas à comprendre tous les enjeux qu'il y a derrière ça. Mais j'apprends à accepter qu'elle vienne de Dieu parce que Dieu est souverain. Il a au moins permis, même si c'est à travers un pécheur qui me fait du mal, Dieu a au moins permis cela. Et nous demander ce que l'Évangile de Dieu attend de nous dans cette situation. Qu'est-ce que la parole de Dieu, qu'est-ce que l'Évangile même, ce que Christ a fait, m'instruit, m'enseigne face à cette situation-là. Et rechercher tout spécialement la face de Dieu dans ces circonstances. Alors, si vous avez lu abondamment les Écritures. Vous savez comment Dieu se sent de la souffrance pour nous amener à chercher sa face. Dieu se sent de la souffrance dans nos vies. C.S. Lewis disait que la souffrance dans la vie humaine, c'est le porte-voix de Dieu. Quand Dieu n'arrive plus à se faire entendre, bien souvent, c'est ça qui sert comme porte-voix dans nos vies, d'accord? Et donc, simplement apprendre à chercher la face de Dieu dans ces circonstances-là. Qu'est-ce que ça veut dire, chercher la face de Dieu? Il n'est pas dans un catalogue, cherchez-le pas sur Internet. Si vous trouvez sa face sur Internet, changez de page. Mais ça veut dire aller dans la prière et dire, « Seigneur, révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Aide-moi à saisir, pas nécessairement pourquoi, qu'est-ce que tu fais, je ne sais pas, mais j'ai besoin de te découvrir là, dans cette souffrance-là. J'ai besoin soit de découvrir ton amour, ta sagesse, ta grâce, comprendre une nouvelle dimension de l'Évangile parce que je souffre, puis ça me conduit à la souffrance de la croix. J'ai besoin de voir comment est-ce que toi, tu vois l'humanité à travers tout ça, à travers la méchanceté des hommes. Fait que, par exemple, il y a quelqu'un qui vous fait du mal, qui vous fait du mal constamment. Puis le premier réflexe, c'est de vouloir rejeter cette personne-là, c'est d'en vouloir à cette personne-là, c'est tourner dans les psaumes puis d'aller dire « Casse-y les dents! » Mais, peut-être que si je commence à chercher la face de Dieu dans cette souffrance-là, je vais en venir à voir comment Dieu voit l'humanité. Puis à voir comment Christ voyait les hommes lorsqu'ils étaient en train de lui cracher dessus, de le mépriser, de le crucifier. Et je vais avoir une fraîche révélation de la personne de Dieu, de son amour, de sa patience, puis mon cœur va sortir grandi de ça. Alors, j'aurai cherché la face de Dieu dans cette souffrance. D'accord? Donc, c'est ça que Packer nous dit. Accepter qu'elle vienne de Dieu, nous demander ce que l'Évangile de Dieu attend de nous dans cette situation. Qu'est-ce que la parole, qu'est-ce que l'Évangile même vient m'enseigner? Et puis, rechercher spécialement la face de Dieu dans ces circonstances. Ça veut dire me servir de cette souffrance-là comme une propulsion pour aller davantage dans la prière. Me servir de cette souffrance-là pour « j'ai pas le goût de manger ». Alléluia, c'est peut-être la première fois que tu as le goût de jeûner de ta vie. C'est avec cette souffrance-là que tu as le goût de jeûner. Vas-y, mon homme, jeûne, prie, cherche la face de Dieu. J'ai plus d'appétit. Super. Commence à prier. Commence à passer du temps dans la prière. Et donc, je vais me servir de cette souffrance-là comme un canal pour aller vers Dieu davantage. D'accord? Maintenant, la sagesse de Dieu est la nôtre. La sagesse de Dieu est la nôtre. On n'a pas la même sagesse que Dieu, n'est-ce pas? On va aborder juste une petite notion en théologie qui est importante pour comprendre la personne de Dieu et en même temps comprendre l'être humain un petit peu plus. D'accord? Les théologiens de la Réforme, lorsqu'ils parlaient de Dieu, on commençait à faire une distinction dans les attributs, les qualités de Dieu. Lorsqu'on parle des attributs de Dieu, on parle de ses qualités, de ce qui le caractérise, de ce qui le définit. Et ils ont parlé des attributs transmissibles ou communicables et des attributs non transmissibles ou non communicables. Donc, il y a des qualités de Dieu que Dieu veut nous communiquer et il y en a d'autres qu'il ne peut même pas nous communiquer. Par exemple, Dieu est infini. Ça ne fait pas partie des projets de Dieu de vous rendre infini, juste pour que vous le sachiez. D'accord? Dieu est tout-puissant. Il n'y a pas de projet de super Edner ou de super Régent, de Superman David, il n'y en a pas de ça. Il y a juste Dieu qui va rester tout-puissant à jamais. D'accord? Donc, on est en train de parler des attributs intransmissible, non communicable de Dieu. En fait, si Dieu les communiquait, il ne serait plus unique, il ne serait plus Dieu. Mais il y a d'autres de ses attributs qu'il veut transmettre. Pouvez-vous me donner des exemples? Les qualités de Dieu qu'il veut nous transmettre? La sagesse. L'amour. La sainteté. La patience, là, on est dans les qualités morales, c'est tout vrai. La compassion, par exemple, Dieu veut nous rendre éternels. On n'est pas éternel de toute éternité, mais Dieu nous rend éternels jusque dans l'éternité. D'accord? Et donc, il y a des dimensions morales, puis il y en a d'autres encore. D'accord? Et donc, il y a des choses comme ça que Dieu veut nous communiquer. La sagesse, c'est un des attributs, une des qualités de Dieu qui est communicable et que Dieu veut nous transmettre. Sans jamais prétendre que nous serons sages comme Dieu, Dieu veut nous rendre sages à son image, d'accord? Et donc, il s'agit d'un attribut qu'il veut nous communiquer, qui est transmissible. Gardez ces catégories-là en tête lorsque vous réfléchissez à la théologie, tout ça. Dans Proverbes 8, 34 à 36, on lit « Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux, car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. » C'est la sagesse qui parle ici. « Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. » Et j'aurais dû l'introduire en disant que c'est le discours de la sagesse. C'est la sagesse qui est en train d'inviter le stupide à la chercher, d'accord? Et à chercher cette sagesse-là. OK, je le mentionnais tout de suite après. Et donc, c'est un attribut que Dieu veut nous communiquer. Dans Éphésiens 5, voici ce qu'on lit. « Prenez donc garde de vous conduire avec sagesse, avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Jacques, on aurait pu citer Jacques aussi. Si quelqu'un manque de sagesse, Dieu va la donner. Donc, c'est un attribut que Dieu veut nous donner, d'accord? Alors, comment est-ce qu'on fait pour devenir sage? Là, on va un petit peu plus dans les premières réponses que vous m'aviez données. Sans aller plus loin dans les notes, comment est-ce qu'on fait pour devenir sage? Il y a plusieurs éléments de réponse, là. Il y en a qui viennent vite à l'esprit, mais il y en a plusieurs. Quand tu veux dire se reposer sur la sagesse de Dieu, qu'est-ce que tu veux dire concrètement? On s'en remet à la sagesse de Dieu? OK. OK, reconnaître que nous, on n'est pas des êtres sages a priori, puis on va se reposer sur la sagesse de Dieu. Excellent, David. Étudier la parole de Dieu, définitivement. Se détourner du mal. Comment est-ce qu'on fait pour grandir dans cette sagesse divine? Tantôt, ça a été mentionné, c'est la crainte de l'Éternel. Apprendre à craindre Dieu, on va en parler un petit peu plus. Comment est-ce qu'on fait pour être sage? Excellent, excellent. Ça résume bien deux éléments qui avaient été mentionnés. Il y a quelqu'un d'autre par là? Comment est-ce qu'on fait pour devenir sage? OK. OK, s'en remettre entièrement à Dieu. Fait que si on va aller vers des conseils pratiques, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire prendre du temps dans la parole régulièrement, parce que mon intelligence a besoin d'être renouvelée. Si je veux vraiment être rempli de la pensée de Dieu, j'ai besoin d'y retourner constamment. Il y a encore une part de folie en moi qui fait que je veux me détourner de Dieu si je n'y vais pas régulièrement. Ça veut dire régulièrement dans la parole. Vous ne prenez pas du temps actuellement régulièrement dans la parole. Pensez-y même pas. Votre croissance en sagesse va être infinitésimale. Vous allez grandir à compte-gouttes, là, d'accord? Il faut y être régulièrement dans la parole. Ça, c'est un élément concret. Il faut apprendre à grandir dans la prière. Daniel Anderson a dit, l'absence de prière dans la vie d'un croyant, c'est quoi? Déclaration d'indépendance envers Dieu. Si vous n'êtes pas un homme et une femme de prière, par le fait même, vous êtes en train d'affirmer que vous n'êtes pas une personne sage. Parce que c'est là, dans la prière, qu'on va faire ce que Josiane vient de dire. C'est là que je vais déposer au pied du Seigneur ma journée, les circonstances, mes inquiétudes, mes troubles. C'est dans la prière que je m'en vais faire ça. C'est le moment où je m'arrête, puis mon focus n'est pas sur l'action, sur ce que je peux faire, sur mes solutions, mais je tourne les regards vers Dieu, je m'arrête, et je m'en vais déposer les choses à ses pieds. C'est là que je vais trouver la sagesse. C'est aussi apprendre à écouter ce qui se passe dans mon cœur. Quand on vit à l'époque où il faut s'écouter soi-même, bien, c'est pas entièrement faux, ça. Souvent, on donne David comme exemple dans les psaumes. David était un homme entier parce que c'était un homme qui savait ce qui se passait dans ses idées, mais il savait ce qui se passait dans ses émotions aussi. Il était conscient de tout ça. Donc, David était à l'écoute de lui-même. Il était en train de dire, mais qu'est-ce qui se passe en moi actuellement? Parce que si je ne suis pas capable de percevoir ces choses-là, je vais me comporter de manière insensée. Je n'irai pas vers la sagesse. Donc, un truc pratique, c'est j'ai besoin de m'arrêter pour faire des bilans de ce qui se passe, de voir mes réactions. Cette semaine, j'ai eu une belle conversation avec ma fille, puis Jade et moi, on se ressemble beaucoup. Fait qu'on a, on est comme ça, on est des grandes gueules, d'accord? On aime argumenter, on aime parler vite, puis là, elle est en train de se découvrir, puis on parlait de tout ça, puis Puis là, il me demandait, oui, mais comment ça marche, toi, dans ta tête, tes discussions avec les gens, puis bon. Belle discussion sur la manipulation, puis. Fait que. Là, j'ai juste dit, ben regarde, je te donne un exemple. Lundi, c'était ta fête, puis j'ai fait un commentaire. J'ai fait un commentaire, puis t'as pas trouvé ça le fun. Puis après ça, peut-être une heure après, j'étais en train de réfléchir à mon commentaire, puis je dis, pourquoi j'ai dit ça? J'ai discerné que dans le fond, il y avait de la manipulation là-dedans. C'était pas réfléchi, là, c'était du domaine du réflexe, mais j'ai juste mis un petit peu de pression au lieu de dire franchement ce que j'avais à dire. D'accord? Et j'ai pas été sage. J'ai pas été sage. J'ai besoin d'être un étudiant de mon cœur pour voir ces choses-là, d'accord? Il faut qu'il y ait du temps qui soit consacré à ça. Il faut que j'étudie les motifs de mon cœur pour pouvoir grandir dans ma sagesse. Donc, on a dit quoi? La parole de Dieu. On a dit la prière. Être étudiant de notre cœur. Être enseignable. Être enseignable. Les gens qui viennent vous voir. Si je demandais à 10 personnes autour de vous la question suivante. Quand tu as des reproches à faire à Daisy, à David, à Dominique, quand tu as des reproches à faire, est-ce qu'a priori c'est bien reçu? Moi, je vous le dis, là, personnellement, là, des gens les plus proches de moi, là, ils me donneraient à peu près 50%. Pas fort. Puis je suis sûr qu'il y a plein de monde qui trouve que je suis quelqu'un de bien humble. D'accord? Mais là où ça compte vraiment, là, je suis encore en train d'essayer de dominer l'espèce de bête en moi qui fait qu'un argument tout de suite, tac, puis on renverse ça, cette affaire-là. D'accord? Pour me soumettre à l'Esprit-Saint. Donc, être enseignable. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'enseignable? Est-ce que vous marchez en compagnie des gens sages? Demain, mardi et mercredi, je pars 3 jours en compagnie de 2 hommes plus sages que moi dans plein de domaines. Je fais ça 2 fois par année. Puis mardi soir, les gars vont dire, « OK, Yannick, ça va comment dans ta vie? » Parce que ça fait 10 ans qu'on te suit là-dessus. On aimerait savoir si tu étais en train de progresser. D'accord? Alors, ça fait 10 ans que je fais ça avec les gars 2 fois par année. 3 jours de prière, de réflexion, d'échange. Je veux marcher en compagnie des hommes sages. J'ai besoin de leur compagnie. D'accord? Ça, c'est des trucs pratiques, concrets. Selon M. Packer, la Bible nous donne 2 conditions pour devenir sage. Apprendre à craindre Dieu. Apprendre à craindre Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer bibliquement c'est quoi la crainte de l'Éternel? Vous ne maîtrisez pas ça, ce domaine-là? David? OK, alors la crainte de Dieu, reconnaître la grandeur de Dieu, se soumettre à sa parole, sachant qu'on ne peut rien sans lui, puisqu'il est Dieu. D'autres choses que vous voulez ajouter, c'est quoi la crainte de Dieu? C'est quoi la crainte de l'Éternel? Est-ce que parce que Jésus est mort sur la croix pour moi, j'ai été adopté, la crainte est totalement bannie? Oui. Oui. Alors, voir Dieu comme il est, voir notre état comme on est, savoir qu'on est pécheur. Dans l'Ancien Testament, à plusieurs reprises, quand les gens étaient devant une manifestation visible de Dieu, ils étaient dans la crainte d'être frappés puis de mourir, évidemment. Oui, Daisy. Craindre les châtiments de Dieu. Oui, parce que c'est un bon père. Vous demanderez à mes enfants s'ils me craignent. Vous demanderez à mes enfants s'ils me craignent, même s'ils ont 16 ans puis 14 ans. Puis, par la grâce de Dieu, ils vont garder une certaine crainte, même lorsqu'ils vont avoir 40 ans puis qu'ils vont venir me voir. Parce qu'il va y avoir ce désir-là d'honorer, de respecter, de dire, si mon père me dit que je suis en train de faire une niaiserie, même si j'ai 40 ans, je suis mieux de mettre ça dans la prière. parce que ça fait longtemps qu'il marche avec Dieu, puis il en a vu d'autres, puis il y a quelque chose là, là. Alors, je devrais juste avoir la crainte de manquer de la sagesse si je passe à côté. Brièvement, Gérard. Même argumenter avec lui. Ouais.
Ouais. Après ça, il revenait, mais on voyait qu'il y avait un cœur à aimer et servir Dieu, et il voulait comprendre. Alors, dans sa conversation, il mettait Dieu comme, regarde, c'est toi qui veux la solution, c'est toi qui vas me dire qu'est-ce qu'il y en a, mais je veux comprendre. Alors, aimer Dieu, moi, c'est respecter Dieu et m'empêcher de faire des choses qui vont l'offenser, mais vouloir comprendre sa direction aussi dans ma vie.
Oui. Dans l'exemple de Gérard, alors l'exemple, évidemment, c'est lorsque Abraham a intercédé en faveur de Sodome parce que Lot, son neveu, était là, puis il voulait comme éviter la mort de Lot. Puis dans cet exemple-là avec Abraham, on a vraiment une belle illustration d'un équilibre très complet où Abraham sait qu'il est aimé de Dieu, fait qu'il pousse sa loque, comme on dirait au Québec, dans sa négociation, son intercession auprès de Dieu. Mais en même temps, on sent tout le long que c'est quand même Dieu le patron, c'est lui qui sait ce qui est sage, d'accord? Donc, il y a cette confiance que Dieu, il aurait peut-être pas pris ce terme-là, mais que Dieu est un bon père pour lui. Et donc, nous, on a cette vision-là de Dieu à travers ce que Christ a fait pour nous, d'accord? Donc, la crainte de Dieu, c'est une bonne part de lucidité, on pourrait dire. C'est une bonne part de lucidité, c'est que je réalise qui est Dieu, je réalise qui je suis. Et donc, Jean Calvin disait, c'est impossible à l'homme de se comprendre lui-même s'il commence par chercher en lui-même. Pour que l'être humain se comprenne, il faut qu'il commence par chercher qui est Dieu, et à la lumière de la personne de Dieu, il va découvrir qui il est. Et c'est un petit peu le défaut profond d'une vision humaniste qui dit, cherchons en nous-mêmes d'abord qui nous sommes. Et on va donc se redéfinir au gré du vent, au gré des courants, des modes dans la société, d'accord? Ça va bien. La sagesse ne pourra pas nous appartenir tant que nous ne serons pas devenus humbles et dociles, remplis de crainte devant la sainteté et la souveraineté de Dieu, le Dieu grand et redoutable. Nous connaissons son amour et sa sainteté. Et donc, lorsqu'on parle de la crainte de Dieu pour celui qui a connu Jésus-Christ, ce n'est pas une crainte qui fait que j'ose pas m'approcher de Dieu, ça ressemble plutôt à la relation d'Abraham avec Dieu. Où il osait même discuter avec Dieu puis dire « Oui, mais Seigneur! » Ou c'est encore la crainte de Moïse qui disait « Oui, mais Seigneur, c'est ton nom là, qui est en jeu. Tu ne peux pas faire ce que tu m'annonces là. Tu » sais. Et donc, il y a cette connaissance profonde de Dieu qui est autant son amour que sa sainteté, sa sagesse, sa puissance. Il est à craindre que bien des chrétiens demeurent toute leur vie dans une disposition d'esprit si orgueilleuse et si dépourvu d'humilité que la sagesse qui vient de Dieu leur soit à jamais inaccessible. Et oui, c'est vrai qu'il m'arrive de discuter avec des frères et sœurs, puis ce qu'on discerne dans leur attitude, c'est que Dieu ne m'a pas convaincu qu'il a raison là-dessus encore. D'accord? Et on l'entend. C'est une chose de dire... Je sais que c'est la bonne chose à faire, mais dans mon cœur, tu vois, je ne suis pas sage. Je n'ai pas le goût de faire la bonne chose. Mais j'ai compris, c'est Dieu qui a parlé. Je sais c'est quoi la bonne chose, ça vient de lui. Mais cette crainte-là n'est pas là, donc mon cœur n'est pas disposé à faire la bonne chose. Ça, c'est une chose. Mais des fois, je vais discuter avec des chrétiens, puis honnêtement, sur cette portion-là, je ne suis pas en train de dire qu'ils ne sont pas chrétiens, mais là, c'est le même discours qu'un non-chrétien. Dieu doit encore faire ses preuves. Il doit me montrer que c'est raisonnable ce qu'il vient de dire. D'accord? Et c'est pour ça que lorsqu'on enseigne la parole de Dieu dans l'Église, lorsqu'on enseigne la parole de Dieu, on va enseigner tout à la fois, voici ce que la Bible dit, puis on va dire en même temps, rappelez-vous qui l'a dit. Parce que ton problème, c'est peut-être pas que tu n'as pas compris ce que Dieu attend de toi, c'est que tu n'as peut-être pas vraiment réalisé qui est Dieu. Quand tu vas réaliser vraiment qui est Dieu, tu vas arrêter d'argumenter là-dessus. D'accord? Et dans tous les aspects, c'est pas juste « Ah! Il va se fâcher après moi. » Non, c'est « S'il me demande ça, c'est vraiment la meilleure affaire. » Comprenez, si Dieu vous demande de faire quelque chose qui n'est pas la meilleure affaire pour vous, là, cassez-vous même pas le pompon, ce n'est plus Dieu. Parce qu'il n'est pas parfait. Mais si Dieu est Dieu, il est parfait. Tout ce qu'il vous demande de faire, c'est la meilleure chose à faire. Autrement, il n'est plus Dieu. Il y a une contradiction en lui-même. Il va imploser, il va exploser. Il n'existera plus. C'est fini là. Nous autres non plus, parce que c'est lui qui soutient l'univers. Comment discerner, admettons, dans une situation, est-ce que c'est vraiment ça que Dieu veut? Ça, c'est une bonne question. Des fois, c'est moins évident parce qu'il pourrait avoir deux biens, il pourrait avoir deux bonnes choses à faire, puis on essaie d'avoir de la sagesse de la part de Dieu. Dans ce que Dieu nous révèle clairement, Dieu s'attend à une obéissance parfaite. Puis dans ce que Dieu ne nous révèle pas clairement, est-ce que je dois acheter la maison bleue ou la maison rose? Okay, je donne ça comme exemple, mais on a un million de situations comme celle-là. Ou des fois, on dit, ouais, mais il y a des enjeux sérieux derrière ça. Est-ce que je vais aller vivre dans telle ville? Je vais vous donner un exemple, tiens, qui pourrait être un exemple un peu compliqué. Vous fréquentez l'église ici, vous décidez de vous acheter une maison à 150 km d'ici. Vous venez me jaser, je vais dire, je suis super content pour toi. Le jour où tu vas m'annoncer que tu changes d'église, je vais comprendre. Je pense que tu devrais aller dans une église locale. Fait que dans ma tête, le compteur est parti, puis on va se réjouir que tu serves avec nous aussi longtemps que tu vas servir. Après ça, on va te laisser aller. Donc, quand je décide d'acheter une maison, puis par exemple, mon travail, je pense à une situation, Charles qui va présenter son enfant tantôt, a vécu exactement cette situation-là. Pour moi, c'est pas le bien et le mal n'est pas là, là. Travaille dans la région de Bromont, découvre l'église ici lorsqu'ils arrivent ici, s'attache à l'assemblée, il y a les dons pour servir. Charles, c'est celui qui dirige la louange en jouant du violon. Wow, une bénédiction incroyable, on est content de l'avoir, mais il travaille loin, c'est là qu'est son travail. Où est-ce qu'on achète la maison? Tu sais, il y a toutes des questions difficiles. Honnêtement, dans ces domaines-là, là, tu écoutes ce qui est dans ton cœur, tu sondes la parole de Dieu, tu consultes des conseillers, puis après, tu avances avec la conviction que Dieu va ouvrir ou fermer des portes. Et dans certaines circonstances exceptionnelles, tu vas avoir vraiment une direction surnaturelle qui va être donnée. D'accord? Mais si vous regardez les directions surnaturelles dans la Bible, là, la moyenne au bâton, c'est pas très, très quotidien, puis c'est pas 10 fois par jour. Je mange du bologna ou je mange une sandwich au thon ce midi. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup de grosses lumières qui descendent du ciel pour ça. Tu sais, un âne a parlé une fois, les cannes de thon, c'est pas arrivé encore. Fait que vous comprenez, c'est mon cœur, je marche régulièrement avec Dieu, grosse décision, cherche la sagesse divine, grand nombre des conseillers, puis je dis, Seigneur, j'avance avec conviction, tu vas ouvrir ou tu vas fermer des portes. C'est comme ça qu'il faut le faire. Je ne crois pas personnellement que Dieu va donner une direction subtile en toutes circonstances. Des fois, il va se passer quelque chose, tu vas dire, wow, c'est un clin d'œil, c'est une coïncidence. La providence divine concourt de manière trop surprenante. Je pense que Dieu vient de me faire un clin d'œil. Là. Ça arrive. C'est pas quotidien, c'est pas constant. D'accord? Le prochain paragraphe au milieu de la page 5 est vraiment important. C'est une erreur de croire que le don de la sagesse permet à celui qui la reçoit ou qui reçoit le don de sagesse de pénétrer davantage le sens et la raison des événements. Lorsqu'on reçoit la sagesse de Dieu, je ne vais pas toujours comprendre le pourquoi ultime des choses. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire à travers ça? Je ne vais pas toujours voir de manière concrète la sagesse de Dieu dans l'événement lui-même. Ou qui le rend capable de savoir pourquoi Dieu a fait ce qu'il a fait dans tel cas particulier et ce qu'il fera ensuite. Ce n'est pas toujours ça la sagesse. C'est beaucoup plus une disposition de cœur. Ce qui compte pour vous, c'est de trouver la meilleure façon de faire face à la situation qui est la vôtre et d'agir en conséquence. C'est exactement ce que la sagesse divine nous rend capable d'accomplir dans la vie de tous les jours. Alors la sagesse pour moi, c'est d'être capable de discerner la bonne décision à prendre selon Dieu, dans les circonstances qui sont devant moi, et d'avoir un cœur qui est disposé à ça. C'est là que se trouve pour moi la sagesse divine. Dernière citation au bas de la page. Excusez-moi l'avant-dernière. « De même, pour vivre sagement, il faut regarder la vie en face avec clairvoyance et réalisme, sans la moindre complaisance. » Par exemple, il y a des gens qui veulent tellement croire que Dieu leur est favorable, puis Dieu leur est favorable, qu'ils ne verront pas le mal. Fait que dans le, toute la théologie, là, je vais terminer avec ça, dans toute la théologie de l'Évangile de la prospérité, qui dit « Confie-toi en Dieu, puis tu vas voir ça, mon gars, ça va être des succès qui vont s'enligner devant toi. » Wouh! À un moment donné, les yeux deviennent fermés, tu mets des lunettes roses, tu oublies que les hommes et les femmes de Dieu ont souffert profondément dans les Écritures. Tu mets tes lunettes roses, les lunettes de l'Évangile de la prospérité. Investis dans le royaume. Dieu va investir en toi. Confie-toi en Dieu. Il va accomplir tous tes rêves. Tu vas voir. Il va y avoir de la souffrance là-dedans, copain. Et donc, la sagesse, c'est de regarder la vie, regarder les choses sans complaisance, avec une grande lucidité, mais avec une grande foi en Dieu. Qu'à travers la souffrance, Dieu est encore en train de faire concourir toutes choses à mon bien. Et ce qu'il attend de moi là-dedans, c'est que j'ai le discernement de faire la bonne chose à travers cette souffrance-là aussi. Et donc, si Dieu m'est favorable, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de souffrance. D'accord? Celui qui est sage croit profondément que Dieu est plus sage, que Dieu est tout-puissant. Il marche avec ces convictions-là dans son cœur. Et je sais que je suis sage dans des circonstances. Lorsque je discerne la bonne chose et mon cœur y est poussé, alors mon cœur est sage. Mais lorsque je suis en train de lutter encore, c'est drôle, là, j'ai relevé un petit post sur Facebook hier, j'ai fait un commentaire sur un post de Bruno, j'ai juste taquiné avec ça. Malheureusement, je ne peux pas faire ça, je suis obligé d'être sage. Moi, je suis en train de me préparer avec ma leçon, tu sais, obligé d'être sage. Si tu es obligé d'être sage, tu n'es peut-être pas sage encore. D'accord? C'est comique, hein? C'est ça. Grandir dans la sagesse. On va terminer avec un mot de prière, puis on se retrouve la semaine prochaine. Père éternel, merci pour tes bontés. Merci, Seigneur, parce que tu nous obliges souvent à travers toutes sortes de circonstances dans nos vies à chercher la sagesse, Seigneur, et à grandir dans cette sagesse. Éternel, tu es souverain, tout-puissant. Toutes choses s'accomplissent selon tes desseins. Et tu es infiniment sage. Par conséquent, Seigneur, toutes choses concourent à mon bien, à moi qui suis en Jésus-Christ, qui ai placé ma foi en Jésus-Christ. J'ai été adopté, Seigneur. Toutes choses concourent à mon bien. Je prie, Père, de nous faire grandir dans ces vérités profondes, tellement apaisantes, rassurantes, qui viennent, Seigneur, conduire nos cœurs près de toi, qui nous donne une grande liberté face aux épreuves de la vie, une grande liberté pour vivre rempli de ton esprit dans un monde où il y a tant de souffrances, de frustrations, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.